On va parler de la hausse des taxes à Montréal, des tickets et des frais de toutes sortes qui touchent la ville. Mais avant, il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient t'entendre sur ton papier de ce matin concernant, disons, le lien entre les producteurs de potes et le parti de Justin Trudeau.
Ouais, mais en fait, c'est que je me suis un peu raccroché au dossier que le journal poussait déjà sur l'argent des paradis fiscaux qui rentrent dans le pot. Puis, tu sais, mon titre, c'est « Trop d'argent en jeu ». Mais j'ai voulu mettre en lumière aussi que c'est comme fascinant. Il y a tellement de libéraux, de gens. Puis j'avais dit ça, je pense, à mon émission à télé. Puis il y avait quelques personnes sur les réseaux sociaux qui m'avaient écrit en disant « Hey, tu charries, là, tu sais, de laisser entendre que les libéraux produisent du pot plus que les autres ». Mais c'est vraiment documenté. Il y a eu plus d'articles au Canada anglais au fil des mois qu'au Québec là-dessus, même s'il y a eu quelques-uns, mais c'est vraiment beaucoup de monde. Puis là, ben, des anciens ministres, dans le cas d'Alan Rock, c'est ministre de la Justice, ministre de la Santé. Là, lui, c'est sa femme puis son fils, sont dans le pot. Et franchement, Paul, ils vont tous devenir millionnaires. Là. Je regarde tantôt, je lisais d'ailleurs à Pierre Hors des Ondes les taux de croissance. Non, mais toutes les compagnies dans le pot l'année passée, les taux de croissance de leurs actions sur un an, là, 300, 400 %. C'est du 300-400%.
Non, c'est sûr.
C'est une croissance. Là,
c'est sans doute un hasard.
Non, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont été des militants, soit dans le Parti libéral, soit des ministres, soit des employés de ministres, des employés de cabinet. Dans certains cas, c'est le Parti libéral des provinces. Même le ministre de la Santé du Parti libéral de la Colombie-Britannique, il a quitté son poste l'automne passé pour s'en aller dans le pot. Il a quitté son poste de ministre de la Santé pour s'en aller dans le pot.
Bon, on comprend l'urgence que ça passe le 1er juillet. Hein?
Ben, on comprend pourquoi ils ont été à ce point intransigeants sur la mise en application de cette législation-là.
Mais c'est sûr que c'est du cash profondément
dégoûtant là-dedans.
Oui, mais c'est aussi, c'est parce que, mettons que je suis niaiseux, là, en théorie, là, c'est une spécialité, là. Je veux dire, produire en serre, ben, Pierre, tu sais, produire en serre, produire la marijuana, tout ça.
J'ai d'avoir défait mes serres et écrire, mon cher.
T'as pas été devin. Non, mais en théorie, c'est une spécialité. Alors, comment ça se fait que des gens...
Il n'est pas libéral non plus, toi, ça.
Ouais, ça t'a... Oui, parce que derrière ça, c'est ça. Derrière ça, il y a toute cette histoire qu'il faut obtenir un permis.
Oui.
Et ce qui fait que ton entreprise passe d'un rêve à une réalité qui vaut des millions... C'est le jour qu'on te donne, que le gouvernement fédéral te donne ton permis, comme quoi tu as le droit de produire, à des fins médicales pour l'instant. Mais là, ils sont tous prêts pour la transition à des fins récréatives et au nouveau marché de quelques milliards.
OK, sujet du jour, on va parler de la hausse, évidemment, du compte de taxes, la hausse du coût des constats d'infraction. Et là, on apprend ce matin la hausse également pour, par
oui,
exemple...
toutes sortes de petits frais, là.
Les tarifs.
Les permis de construction, le chien, le chat.
Le gymnase.
Ouais. C'est troublant, tout ça. C'est troublant parce que c'est comme si Projet Montréal, Projet Montréal a bénéficié d'une dose de sympathie citoyenne assez énorme pour être élu, parce qu'il y avait bien de la logique pour que M. Coderre fasse un deuxième mandat, puis il a été emporté par une vague. Puis tous les premiers gestes qu'il pose semblent répondre à cette vieille politique-là qui est imposons immédiatement des tarifs et des hausses, et comme ça, on sera tranquille les trois autres années. Puis c'est fait d'une façon qui est... en tout cas, la perception qu'on a de ça, il y a quelque chose d'arrogant ou de dogmatique dans la façon dont c'est fait. Puis tu parlais de M. Doré, quand on l'entend, puis qu'il dit ben, 100$ de plus, c'est facile à absorber, quand on l'entend dire ben, si on est capable d'investir, de payer 500 000$ pour une maison, c'est pas 387$ de plus qui vont faire une différence. Il y a quelque chose de fâchant là-dedans. On a le sentiment d'avoir été floué, d'avoir été trompé jusqu'à un certain point. Voilà un parti qui semble vouloir mettre en place une espèce de théorie avec laquelle je suis d'accord, plusieurs des aspects de la vision de Montréal, de Projet Montréal. Moi, je suis en accord avec cette vision-là, mais quand je les vois mettre ça en œuvre actuellement, je me dis, mais là, ils m'ont trompé. Ils sont en train de m'imposer une vision et si je suis riche ou si je suis favorisé ou si je veux utiliser des services, je vais payer. Puis il y a quelque chose de fâchant là-dedans.
Hier, il y avait un premier chroniqueur qui osait le dire, je pense que c'est dans The Gazette, Bronstein, il disait « On est proche d'avoir des gens qui s'ennuient de Denis Coderre. » Et, deuxième chose, si on reprenait l'élection demain matin, pas sûr que Denis Coderre serait battu. Reste que, je ne vais pas défendre ça, j'étais pas d'accord au point de départ avec l'augmentation des dépenses. Parce que ce qui fait que tu cours après des revenus, c'est parce que tu as laissé les dépenses augmenter à 5,5%. Il est là la base du problème, mais Est-ce qu'il faut vraiment être surpris? Puis là, Pierre, je sais que tu vas réagir. Mais c'est pas les partis plus à gauche. Puis les projets Montréal, c'est pas mal à gauche. Là, c'est dans la nature, là, c'est dans la philosophie politique de croire, avec une philosophie défendable, de croire en l'État. Donc, de croire en l'État, dans ce cas-ci, étant la ville, donc à l'institution de l'État, qui va agir beaucoup, puis qui va avoir des, comme on dit, des bras agissants, donc des organismes, puis tout ça coûte de l'argent. Mais quand tu dépenses plus, c'est comme inévitable que le corollaire, c'est qu'à un moment donné, tu vas courir après des revenus. Bon, jusqu'à quel point tu le dis de façon transparente en campagne électorale, généralement, il n'y a pas même bien des partis qui aiment ça en campagne électorale, de parler d'augmentation de taxes. Donc, est-ce qu'il y a aussi là-dedans une compréhension des électeurs de dire, ben quand tu votes pour un parti qui est un peu plus à gauche, attends-toi pas à des baisses d'impôts, là, t'sais, attends-toi plus à des hausses, ou en tout cas...
Moi, c'est pas tellement le fait qu'il soit un parti plus à gauche ou plus au centre.
Non, mais philosophiquement, là...
Mais ils nous ont pas convaincus, actuellement. Moi, j'ai pas eu la conviction que durant la campagne électorale, et même au début de leur prise du pouvoir, il y avait une situation budgétaire terriblement inquiétante, tellement inquiétante et tellement problématique qu'il fallait absolument hausser toutes les taxes, toutes les amendes et tous les tarifs.
Non, mais ils ont aussi les dépenses.
Oui, mais ils ont aussi les dépenses dans un budget.
Considérablement, là, 2,5 fois l'inflation, mettons.
Oui, peut-être. En même temps, si la hausse correspond à des besoins, puis en principe, ils ont été élus pour satisfaire
des besoins. Pierre, là. Moi, là, ouais. Je vais te dire une chose. Demain matin, des besoins, là, si tu ne gères pas serré, tu écoutes les besoins des gens, tu vas augmenter les impôts de 47%. Oui. Des besoins, c'est infini. Tout le monde a des besoins. Tous les organismes ont besoin de plus de subventions. Repasse là, les bureaux de fonctionnaires à l'hôtel de ville un par un. Ils vont tous te dire qu'ils ont besoin d'un adjoint, une secrétaire, un meilleur cellulaire, une autre imprimante.
Non, mais il y a des choses infinies, qui ont du bon sens. Besoins. Par exemple, tu dis des amendes, on va mettre fin au quota. Ça a du sens. Là, on se dit, tu sais, il y a des trappes à tickets, ces choses-là. Donc, on met fin au quota. C'est un bon esprit, ça. Mais en même temps, on dit, ah, on va augmenter terriblement. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que si t'as le malheur d'être un fou, t'es mieux de respecter le règlement. Autrement dit, il y a quelque chose d'un peu soviétique dans cette affaire-là. Regarde, il n'y aura pas de quota, ceux qu'on va pincer, par exemple, eux autres, on va les pincer, ouais, puis ils vont payer.
Dans le cas des règlements sur le stationnement...
Tiens-toi les oreilles bien collées parce qu'il va vanter fort. C'est cet esprit-là, moi, que j'aime. Est-ce que c'est un esprit de gauche? Je pense pas. Je pense que c'est une façon de... pour une certaine gauche, d'avoir de la rigidité. Je trouve qu'il y a un aspect de rigidité. Par exemple, tu hausses les tarifs selon l'inflation. Moi, ça m'a toujours semblé relativement raisonnable si les tarifs, en général, étaient haussés un peu en dessous de l'inflation. Il y a effectivement des coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Il y a une logique là-dedans. Mais dire que tu hausses, comme ils le font, les tarifs, sans égard à l'utilisation, par exemple, dans les endroits où tu t'entraînes pour faire du badminton, là, tu te dis, oups, là...
Sous prétexte que ça n'a pas été augmenté depuis des années.
Tu sais, 2 piastres de plus, 4 piastres de plus, je sais pas, j'aime pas cette façon.
Mais c'est parce que le sentiment en début d'année, c'est que ça vient de partout, là.
C'est ça.
Mais moi, je pense quand même que sur la question, si on vient à la question des taxes, là, je pense quand même que Valérie Plante, c'est une femme intelligente, puis ils doivent prendre la mesure que là, ils ont un problème politique réel. Ils ont déçu les Montréalais. Je suis assez convaincu que ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de se rattraper. C'est-à-dire que de dire, ben regarde, notre engagement, là, qui était de ne pas augmenter les taxes à un taux supérieur à l'inflation, ils vont essayer pouvoir remplir l'engagement, mais sur 4 ans, là, de le réajuster.
C'est clair.
En augmentant moins les autres années, moins que l'inflation, pour que si sur 4 ans, l'inflation a été, je sais pas, 2 plus 2 plus 2, tu sais, 4 fois 2, 8, là, ben, pour revenir, tu sais, regarde, là, nous, les taxes ont augmenté de 8%, puis sur 4 ans, l'inflation a été de 8%, donc, on n'a pas respecté notre engagement la première année,
oui.
Mais sur le mandat, on l'a respecté.
Compte sur 2 choses. Ce que tu dis, l'étalement sur le reste du mandat, les 3 autres années devraient aller mieux. Puis il compte aussi sur le fait que vous allez voir que les hausses qu'on vous demande se traduisent par des services dont vous percevez l'amélioration. Et ça, c'est une belle vision, mais à mon sens, elle ne tient pas compte de tout ce qui peut arriver pendant 3 ou 4 ans dans une ville.
C'est rare que tu réussisses à convaincre les citoyens que les services sont parfaits. Ouais. Et le message très négatif. Moi, je trouve que le message de début de mandat, c'est pour accueillir des familles à Montréal ou garder des familles à Montréal ou ramener des familles à Montréal. Ça, elle l'a échappé. Je pense que dans tout son mandat, elle va avoir de la misère à rattraper ça. Alors que ça devait être un de ses thèmes forts de dire, regarde, on veut ramener des familles vivre à Montréal. Pff, là, tu sais, le message, les gens de la banlieue, là, tu sais, qui, le message général qu'ils reçoivent, c'est qu'à Montréal, ça va coûter cher pour quelques années, là. Mais ça, c'est pas.
L'autre chose, on devrait les inviter fortement à changer de ton. Quand on aborde ces questions-là, parce que déjà que payer s'attend plus ou moins, se faire baver, c'est pas plus agréable.
Perception est très négative.
Mais quand tu te fais baver, se faire dire si t'as un moyen de ça, t'as un moyen de payer.
Ben, tu peux être. Tu sais, 500 000 à Montréal, je m'excuse, là, c'est pas Moulinsard. Là,
non.
C'est pas. Puis là, de te faire dire ben, si t'as un moyen, puis c'est pas 100$ de plus, comme disait Pierre, puis c'est pas 300-400$ de plus, excuse-moi, là, mais t'es pas seul à fouiller dans mes poches, là, t'as une gang, là.
Non, puis ce 100 pièces-là, c'est moi qui ai travaillé, c'est à moi-là.
Je peux-tu me le garder? Je suis obligé de te le donner. C'est comme... Puis quand tu viens me chercher de l'argent, fallait poliment. Tu sais, il me semble que ça, c'était comme le minimum, là.
En tout cas, espérons que ceux qui vivent à Montréal vont pouvoir sentir les bénéfices de cette nouvelle administration.
Nous allons faire une pause et au retour, puisque nous sommes en réserve de la station, nous reviendrons pour parler de Pierre-Carl Péladeau. L'autoroute Bonaventure.